bienvenue dans ce nouveau magazine culturel consacré pour ces prochaines minutes au musée de l'image à Épinal. Nous accueillons la directrice Christelle Rochette, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes venue pour nous présenter une toute nouvelle exposition qui sera l'exposition de saison et qui est intitulée « Icônes, les images fantasmées ». Alors, tout de suite, évidemment, quand on utilise le terme d'icône, on a, j'imagine, toutes et tous des images qui nous viennent à l'esprit. Et je trouve qu'il serait intéressant de savoir l'histoire derrière cette exposition. Et peut-être commencer par nous expliquer comment est venue l'idée et le choix de ce thème.
En fait, c'est en réfléchissant sur ce qu'est actuellement l'image populaire que nous en sommes arrivés donc à dériver en quelque sorte vers l'image iconique. C'est un petit peu un redondant d'ailleurs parce que le icône en grec ça veut dire image justement. Et c'est surtout on est parti du constat que ce mot icône, iconique, était largement galvaudé aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il était utilisé à tort et à travers pour un oui et pour un non. Donc on a voulu en fait redéfinir exactement ce qu'était une icône en se focalisant sur personnalités ayant existé, personnalités devenues iconiques, que ce soit donc des personnalités religieuses, historiques ou du monde du spectacle.
Alors, vous dites « on », donc vous avez travaillé à quatre mains sur cette exposition.
En fait, on a travaillé, voilà, j'ai travaillé, nous sommes deux commissaires pour cette exposition. J'ai pu travailler avec François Cheval, qui était un spécialiste de la photographie et qui est un ex-conservateur de musée.
Alors, c'est l'occasion de nous expliquer aussi comment ça se passe pour créer une exposition. Ça remonte à il y a combien de temps? Parce que là, on arrive à la date de février où l'exposition va être exposée. Mais combien de temps il a fallu pour la concevoir et pour la préparer?
En fait, au départ, il faut définir effectivement le concept, et c'est pas toujours simple, notamment en termes de, pour cette exposition-là, voir le matériau disponible aussi, qu'est-ce qu'on peut avoir déjà dans nos collections, mais aussi qu'est-ce qu'on peut emprunter à d'autres institutions, et la réflexion s'engage donc pour essayer de sortir des discours habituels, et donc on a bien mis facilement 2 ans. Pour 2 ans d'échanges de textes, échanges de réflexions, pour monter cette exposition.
Alors, ce François Cheval, c'est quelqu'un qui est au musée ou c'est quelqu'un qui est à l'extérieur
du
musée ?
Non, c'est aujourd'hui un commissaire indépendant.
Mm-hmm. Donc, vous avez travaillé en distanciel ensemble ?
Oui, ou on pouvait se voir aussi. Hein, j'ai été plusieurs fois le voir pour justement en discuter.
Concevoir
un peu quelles icônes allions-nous choisir. Voilà, c'est vraiment un travail d'aller-retour intellectuel entre guillemets.
Alors, icône, je trouve que c'est un mot qui a été vraiment complètement détourné de son sens originel. Et est-ce que c'est une volonté que vous aviez aujourd'hui de le ramener dans son sens d'origine, ou est-ce que c'est vraiment pour montrer comment il a évolué également?
Les deux. Quelque part, un peu les deux. Effectivement, il n'y a rien de plus agaçant que d'entendre à longueur de journée le mot icône prononcé pour un oui, pour un non. Donc on s'est interrogé effectivement sur le statut d'une icône, la définition même d'une personnalité iconique. Qu'est-ce qui faisait d'elle une icône, hein, à la fois donc une vie extraordinaire au sens propre du terme, mais aussi beaucoup de tragique dans cette vie, et puis surtout une reconnaissance de la population, c'est-à-dire dès que vous voyez une image, dès que vous prononcez un nom, vous avez tout de suite une image qui vous vient en tête. Et cette image, elle est souvent fantasmée, d'où le sous-titre de l'exposition, parce qu'on invente beaucoup autour.
On crée une légende finalement.
On crée la légende,
on crée
un mythe. Et d'ailleurs, l'icône, elle se définit comme se définissait un mythe. Ça, c'est, il lui faut du temps pour exister, il lui faut du temps pour devenir véritablement une icône. Et la question finale de l'exposition, c'est justement aujourd'hui dans une société où les images passent,
tout va très vite,
mmh. Une image remplace une autre. Est-ce qu'on a encore le temps de devenir une véritable icône telle que celle que nous présentons dans l'exposition?
Alors, présentons un petit peu plus de cette exposition, entr'ouvrons la porte du musée pour découvrir le travail que vous y avez présenté. Comment avez-vous choisi de la présenter au public? Par quoi ça commence?
C'est un peu, on va dire, un parcours presque chronologique, on dirait, mais c'est un parcours aussi qui suit le progrès technique, en fait. Le progrès technique, c'est-à-dire donc de la gravure, on passe à la photo, aux revues illustrées, de photographie également, au cinéma. Ce progrès technique et la force de diffusion de l'image mécanique à partir de la fin du 19e et du début du 20e siècle, ça va vraiment contribuer à former, à forger des icônes. Puisque tout le monde aura les mêmes images en tête. Donc, comme je vous le disais, on fait un parcours un peu chronologique parce qu'au début, effectivement, les icônes, comme leur nom, le mot originel l'indique, c'est plutôt religieux. Donc, la première des icônes qui nous vient à l'esprit, on pense tout de suite, effectivement, aux icônes peintes de la religion orthodoxe.
Avec ces peintures dorées, très lumineuses.
Exactement. Alors, on en a dans l'exposition, vous pourrez en voir, pour évoquer la figure du Christ. La figure du Christ dont personne ne sait à quoi réellement il ressemblait, et c'est en fait à la Renaissance qu'on va imposer, que l'Église va imposer un physique très particulier de cet homme, cheveux longs, plutôt blond.
Et qui doit correspondre aux critères de l'époque.
Et qui doit correspondre, voilà. Donc déjà là, une image fantasmée, quelque chose qui relève d'une part de propagande, quelque part.
Eh bien, je vous propose, Christelle Rochette, qu'on puisse marquer une courte pause. On va poursuivre la découverte de cette exposition dans quelques instants pour la deuxième partie de ce magazine avec vous-même à notre micro. Je rappelle, vous êtes la directrice du Musée de l'Image à Épinal. Alors, à tout de suite sur cette antenne. Deuxième partie de ce magazine culturel consacré au musée de l'image à Épinal et pour parler de l'exposition Icônes, les images fantasmées, exposition qui débute à la fin de ce mois de février. Nous sommes en compagnie de Christelle Rochette, la directrice du musée, et vous nous détaillez les premiers aspects de cette exposition et je vous propose de poursuivre avec ce que l'on découvre ensuite.
Ensuite, le parcours prévoit un petit arrêt dans le roman national, là aussi donc des personnages complètement fantasmés. Pour certains, donc les historiens du 19e siècle mettent en place une histoire propre à glorifier la France et mettent en avant des héros, des vainqueurs. Alors généralement, effectivement, c'est un peu militaire. C'est des grands rois. Donc pour l'exposition, ce sera Vercingétorix qu'on redécouvre au 19e siècle, qui était complètement oublié depuis qu'il avait été assassiné par César à Rome. Jeanne d'Arc, Napoléon. Ça c'est des grandes figures qui se caractérisent aussi par une allure. Quand je vous parlais de Vercingétorix, c'est les historiens du 19e siècle qui lui ont donné un physique qu'on ne connaît absolument pas. Donc ça tombe, il était absolument pas moustachu, il avait certainement pas un casque ailé, ça c'est sûr. Et peut-être n'avait-il pas les cheveux longs non plus. Donc c'est à force de répéter. On reconnaît tout de suite Vercingétorix, enfin un Français en tout cas va tout de suite reconnaître Vercingétorix parce que dans les manuels scolaires, on a rabâché, on a illustré de façon répétitive ces mêmes personnages et donc c'est rentré vraiment dans l'esprit de chacun.
Et dans l'imaginaire collectif.
Napoléon, vous avez besoin d'un chapeau pour le présenter. Il a formé lui-même sa propre icône de son vivant. Donc
c'est peut-être la différence avec les autres personnages qui n'ont pas cherché à former une icône. Même quelque part, même Jeanne d'Arc n'a pas cherché à former une icône. C'était pas sa démarche, tandis que Napoléon avait vraiment ce besoin de l'image.
Par contre, Jeanne d'Arc a été largement récupérée par tous les partis politiques depuis le 19e siècle, hein, de gauche ou de droite.
C'est régulier, c'est récurrent, on la retrouve.
On la retrouve partout. Donc c'est là qu'intervient un peu la propagande aussi. On s'aperçoit que cette propagande, elle a un lien très fort avec l'iconisation d'un personnage. Et on continue le parcours justement avec quelqu'un qui peut faire polémique, qui est Staline.
Oui, donc Staline. Là on tombe dans quelque chose qui est plus de l'icône presque imposée, entre guillemets.
Presque, oui, voulu, mais comme Napoléon.
Voilà, le mitin, finalement, pas si loin de Napoléon.
C'est pas si loin de la volonté napoléonienne. Staline, donc, réfute toute religion, mais qui prend la place, son portrait prend la place des anciennes icônes orthodoxes. Et c'est tout le paradoxe.
Cette volonté de se faire Dieu, entre guillemets, au niveau du peuple.
Oui, tout à fait. Ensuite, donc, avec, on va dire, les progrès techniques dont on parlait à l'instant, donc la force aussi de publicité, on va dire, la force de diffusion du cinéma, de la presse au XXe siècle, vous allez avoir d'autres catégories de personnalités qui vont devenir des icônes. On va laisser de côté un petit peu la politique, qu'on aurait pu choisir des Gandhi, d'autres Mao, par exemple, aussi. Mais là, ça devient vraiment le monde du spectacle. C'est vraiment lui qui va prendre la place et qui va devenir le monde du spectacle va vraiment fournir des icônes, mais alors là, pléthore.
Hein. Oui.
Donc c'est à la fois donc Marilyn Monroe, quand vous pensez cinéma.
Cinéma américain.
Cinéma américain, mais même le mot cinéma ou le mot star, c'est aussitôt le visage de Marilyn Monroe, qui, alors qu'elle est quand même décédée en 62, mais elle reste toujours quelqu'un qui fascine encore aujourd'hui, qui fait l'objet de films, de téléfilms, d'ouvrages, de revues, des hors-séries, etc. C'est pas plus tard que cette année encore. Hein. C'est incroyable. En France, vous avez Brigitte Bardot, qui a été vraiment une icône à un moment donné, mais une icône qui s'est depuis un peu éteinte, on va dire. Pour rester un petit peu dans le politique quand même, parce que on est quasiment parti de l'image la plus iconique qui soit, qui est le portrait de Che Guevara. Par Alberto Korda, une photo qui est devenue célèbre à la mort de Che Guevara.
Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est un personnage qui, lui, était révolutionnaire, n'a pas cherché à développer son image plus
non,
que
non,
ça,
il
c'était pas sa démarche.
Il était un homme parmi d'autres, lui, il faisait partie du gouvernement, on le voit sur des photos qu'on présente ici, c'est un accident cette photo de Korda. En fait, le Guevara était sur une tribune, il y avait un discours de prononcé, donc évidemment par Castro, et les vedettes du jour, c'était Castro, Simone de Beauvoir et Sartre. Et il n'a rien prononcé, il n'a rien dit du tout, Che Guevara, à ce moment-là. Et d'un seul coup, il s'est juste avancé, sans rien dire. Korda a pris deux photos, recadrées, et c'est devenu cette image de presque romantique, ce regard un peu christique, un peu voilà, dirigé vers le lointain, et dont les adolescents des années 70 se sont emparés sans même connaître le personnage. Il y avait quelque chose, voilà, c'était le révolutionnaire romantique. Et il connaissait rien en fait de Che Guevara, mais ça a meublé tous les murs des chambres adolescentes des années 70.
Et même si c'est moindre aujourd'hui, on le retrouve encore aujourd'hui détourné dans plein de styles possibles.
C'est ce qui signe aussi l'iconisation d'un personnage, c'est le détournement de leurs portraits, les portraits les plus connus évidemment, que ce soit Marilyn, Che Guevara ou bien d'autres encore, quand c'est réinterprété soit par des artistes comme Andy Warhol quand ça fait l'objet de produits dérivés à l'infini, là vous avez vraiment là vous pouvez vraiment penser que cette personnalité est une icône.
Icône donc du XXe siècle avec ce Che Guevara qui a marqué son époque. Je vous propose, Christelle Rochette, qu'on puisse poursuivre la découverte de cette exposition avec vous dans quelques instants. Ce sera pour la troisième partie de ce magazine consacré au musée de l'image à Épinal, dont vous êtes la directrice, et à cette exposition Icône, les images fantasmées. Alors à tout de suite sur cette même antenne. troisième partie de ce magazine consacré à la thématique culturelle et autour du musée de l'image à Épinal qui présente en cette fin de mois de février une nouvelle exposition de saison intitulée « Icônes, les images fantasmées ». Cette exposition a été mise en œuvre par Christelle Rochette, la directrice du musée, et elle nous en expose les différents aspects. On a évoqué il y a quelques instants les personnalités du XXe siècle qui sont devenues finalement des icônes. Et comme l'exposition n'est pas terminée, vous avez sûrement d'autres icônes à nous présenter.
Partons un peu vers la musique avec les Beatles, le groupe du baby boom, on va dire. Eux-mêmes sont nés pendant la guerre et juste après-guerre, qui donc au lendemain de la Seconde Guerre mondiale vont devenir vraiment les icônes d'une jeunesse qui a envie de passer à autre chose, qui a envie de se débarrasser du carcan des générations précédentes. Et là, on ne parle pas d'un succès en Angleterre, on parle d'une hystérie collective à travers le monde entier, du Japon jusqu'aux États-Unis. Là, il y a vraiment quelque chose presque d'inexplicable qui se produit. Il y a comme une sorte de transfiguration. On en revient toujours aux religieux. Il y a toujours quelque chose de...
Oui,
l'adoration,
fantasme.
Il y a une adoration voilà.
Et toujours ces individus qui sont des monsieur, madame, tout le monde, mais qui deviennent, par leur implication musicale et par leur création musicale, deviennent...
Et puis par la diffusion de leur image aussi, c'est
exactement.
Ça surtout. Plus vous diffusez d'images et plus évidemment vous rentrez dans la tête des gens. Et là commence effectivement le rêve, le fantasme autour de ces personnages. Et l'exposition donc se termine, on ne pouvait pas faire autrement que de parler du sport, évidemment, le sport avec...
Ce sont les nouvelles icônes, outre le cinéma, j'entends.
Oui, ça a toujours été plus ou moins des icônes quand même à chaque fois, évidemment, avec le sport le plus populaire au monde, qui est le football. Donc on a par exemple Zidane, effectivement, dont le portrait est projeté sur l'Arc de Triomphe le soir de juillet 98, où l'équipe de France a gagné, et là... On projette la photographie d'un sportif sur un monument. C'est hallucinant. On voit la foule devant aussi. On peut pas ne pas parler d'adoration. Là. Il y a Maradona, évidemment. Ayrton Senna pour le Brésil, qui
avec la mort
souvent,
tragique.
Voilà. Et souvent, voilà. Je parlais de tragédie tout à l'heure. Il y a effectivement souvent des fins un peu tragiques. On pourrait le dire avec les Beatles aussi, avec l'assassinat de Lennon. Che Guevara, Marilyn Monroe aussi. Enfin, il y a souvent ce point commun, effectivement.
Qui est finalement empreint de mystère quelque part. Ça emporte la légende avec eux, cette fin tragique.
Oui. Surtout, ces personnes n'ont pas le temps de vieillir. Je pense que ça concourt beaucoup à ce fantasme. Qu'est-ce que serait devenu un tel ou un tel si ils avaient vécu 40 ans de plus ou...
C'est peut-être ce qui explique aussi le fait que l'image de Brigitte Bardot soit retombée un petit peu avec le temps.
Sans doute, et puis surtout certains propos qu'elle a pu tenir qui allaient contre l'image qu'elle devait donner dans le cinéma français. Donc voilà.
C'est aussi ça qui fait qu'on peut briser une icône quelque part. Elle peut se s'auto-détruire entre guillemets. Pour conclure, c'est ce que vous disiez, on peut se poser la question de savoir quelles sont les personnalités qui aujourd'hui ou à notre époque vont marquer durablement l'histoire au point de devenir des icônes pour les années et siècles à venir.
Ça on le verra dans quelques années, peut-être qu'on ne sera plus là pour le constater, mais effectivement dans cette ère où les images passent les unes après les autres, s'auto-détruisent en quelque sorte, c'est très compliqué aujourd'hui de dire qui va rester vraiment dans une icône, comment atteindre ce statut aujourd'hui alors que tout va si vite et tout disparaît.
Et c'est important de pouvoir redécouvrir donc cette exposition au Musée de l'Image, exposition que vous avez donc conçue à quatre mains avec François Cheval, donc vous êtes deux co-commissaires, c'est comme cela qu'on dit.
C'est ça.
Et cette exposition, donc, elle débute quand ?
Elle débutera le 24 février, donc le samedi 24 février, pour se terminer le 22 septembre.
Il y a un vernissage qui est prévu, quelque chose ?
Vernissage la veille, le 23, en présence des commissaires, justement, et des prêteurs.
Et donc, ce sera l'occasion de venir découvrir toutes ces icônes, je dis bien au pluriel, il y en a plusieurs, faut pas se dire qu'il y a qu'une seule image qui est représentée, que ce soit celle qui est proposée pour illustrer l'exposition ou d'autres, il y en a beaucoup à venir découvrir. Ça représente combien d'œuvres, justement?
Autour de 150.
Et vous m'aviez dit, il y a plusieurs technologies,
il y a
techniques
tout,
qui sont représentées.
Tout support, effectivement. Tout on support. Part de l'imagerie populaire, donc de la gravure, en passant ensuite par la photographie, la presse illustrée, la presse photographique, le cinéma. Il y a quelques extraits de films également dans cette exposition-là. Des objets dérivés aussi. Justement.
Pour bien montrer comment survivent les icônes à travers le temps.
Exactement.
Eh bien Christelle Rochette, je vous remercie pour cette présentation. Je rappelle que vous êtes la directrice du Musée de l'Image. Cette émission, ce magazine est disponible dès aujourd'hui en podcast sur notre site internet radiocristal.org. Et moi je vous dis à très bientôt pour parler de l'actualité du musée avec les membres de votre équipe.
Entendu. À bientôt.
Au revoir.